On a commencé par un premier chant ce matin qui concluait ce que tu nous avais dit. Dans ce monde où l'épreuve, les doutes sont là. Et si parfois dans mon cœur vient le doute, j'ai un ami qui peut toujours m'aider, qui toujours peut m'aider. Oh, merci, c'est la voix qui est comme ça. Merci. Oui, on n'est pas dans un monde facile. Mais sachant que le monde n'a pas toujours été facile. Et nous allons lire un passage où il n'était pas facile, mine de rien. Je vous propose une lecture un peu longue. J'essaierai de ne pas être long. C'est le premier chapitre de l'évangile de Luc. Alors c'est le plus long chapitre des évangiles, 80 versets. Peut-être qu'on n'ira pas tout, mais on va le lire pas comme on a l'habitude. Évangile selon Luc, premier verset. Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron. Son nom était Élisabeth. Il y en a au moins deux aujourd'hui ici. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Et il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Faisons une première pause. Tout le monde connaît Luc. Pourtant, on ne sait rien de lui. Luc, on ne sait rien de lui, à moins si on sait une chose, le médecin bien-aimé. Mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est Paul. Lui, il ne dit rien de lui. Il ne dit jamais rien de lui. Et pour moi, Luc est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est très discret. Et un serviteur de Dieu comme Luc brille par sa discrétion. On connaît tous ce fameux passage dans le chapitre 16 des Actes. Le livre des Actes est écrit par Luc. Et il parle de tout ce qui s'est passé. Il écrit aussi à Théophile. Et il dit, ils sont partis, ils sont arrivés. Et au chapitre 16, tout à coup, il dit, et nous partîmes, et nous arrivâmes. Ça veut dire qu'il est là, qu'il fait partie de l'équipe. Vous imaginez une façon plus discrète de dire, moi Luc, je suis dans l'équipe des évangélistes qui ont répandu l'évangile dans le monde? Non, on ne peut pas être plus discret. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de noter que Luc, cet homme si discret, va parler des gens humbles et discrets. Qui parle de Zacharie? Qui parle d'Élisabeth? Qui parle des bergers? Qui parle de Siméon et Anne au début des évangiles? C'est lui, c'est pas d'autre. Matthieu, ce n'est pas une pierre que je lui lance, hein, mais Matthieu, il parle des mages. Lui qui parle, des gens discrets et humbles. Le médecin bien-aimé. Je me suis demandé pourquoi Paul ajoutait ces deux termes, bien-aimé. Et l'autre jour, en lisant la fin du livre des Actes, on retrouve le nous. C'est Paul qui est emmené en prison à Rome. Et pourquoi il y a nous? Parce que Luc est là. Parce que Luc n'a pas laissé tomber Paul. Luc ne l'a jamais laissé. Et là, on voit l'amour. Un homme discret, un homme qui aime, un véritable ami. Alors là, vous voyez, Luc, ça vaut la peine d'en parler finalement. Parce qu'en fait, on sait bien, c'est vrai qu'on ne sait rien de lui. Mais ce qu'on sait, c'est suffisant. Discret, un ami. Il y a une troisième chose. C'est qu'il dit là au début, voilà, je vais vous écrire tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai reçu, entendu. Lui, il n'était pas présent quand le Seigneur était sur la terre. Il n'était pas présent en Judée. Donc il a dû collecter énormément d'informations. Quelqu'un qui écrit une biographie, c'est un travail compliqué, pour pas dire des bêtises. Et en plus, lui, il écrit une des biographies, on pourrait dire, de Jésus. Alors il a dû collecter, vérifier, contrôler. Mais c'est un travail énorme. Et en même temps, il ne quittait pas Paul et toute cette équipe d'évangélistes. Il sillonnait le bassin méditerranéen. Il marchait des jours et des jours. Et il travaillait. Luc, discret. Luc, un vrai ami. Luc, un travailleur. Et vous savez la récompense? Eh bien, la récompense, elle est extraordinaire. Quand on lit, je vous cite un verset dans les Colossiens, qui, je pense, pourrait vraiment s'appliquer à Luc. Colossiens 3, verset 23. Quoi que vous fassiez, et là, Luc, il écrit pour un ami, Théophile, il écrit pour un ami. Tout ce travail, il le fait pour une personne. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur. Faites-le de cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense. La récompense. Luc, il a écrit pour un homme. Et ce qu'il a écrit, il le sait. Moi, je pense qu'il ne le sait pas. En fait, j'imagine. Hein. Là, je reconnais que j'imagine. Parce que on ne sait pas ce qu'ils savent au ciel. Mais j'imagine que Luc, un jour, va découvrir que ce qu'il a écrit pour un homme, des milliards et des milliards l'auront lu. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cet homme discret. Travailleur, quelle récompense! Quelle récompense! Voyez-vous, il y a bien des gens actifs ici. Moi, je suis du troisième âge, j'ai basculé de l'autre côté depuis un moment déjà. Donc, nous sommes des grands-parents. Avec Pierre-Yves, nous avons les mêmes grands-parents, évidemment. Et nous avons beaucoup reçu de nos grands-parents. Beaucoup appris. Et je sais les valeurs qu'ils nous ont transmises. Et il y a 2 ans, mes enfants avaient voulu m'honorer pour un changement de décennie. Et ils ont commencé à parler de ce qu'ils avaient reçu de moi. Alors là, vous savez, Moi, je suis... Avec Francine, on n'est pas forcément très fiers de ce qu'on a transmis. Mais quand je les ai écoutés, j'ai compris. Ce qu'ils disaient, ce n'était pas moi qui leur avais appris. C'était en fait ce que mes grands-parents m'avaient appris. Et j'ai compris qu'ils étaient en train de transmettre à leurs propres enfants. Si on compte bien, ça fait 5 générations. Alors vous voyez, le travail de nos grands-parents, de notre grand-père Danoné, humble, discret, un vrai ami aussi. Ce travail, il se transmet déjà 5 générations plus loin. Alors vous voyez, Luc, ce n'est pas un exemple isolé. C'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. Et c'est un encouragement. Alors si je commence à être aussi long que ça, ça va pas le faire. Hein. Quand même, au sujet de Zacharie, 2 fois il est fait mention qu'il est de la classe d'Abia. Je ne sais pas qui est Abia, je ne sais pas ce que ça veut. Mais les classes, c'était une organisation que David avait instaurée. Les Lévites, les sacrificateurs habitaient dans tout le territoire de Canaan. Et ils venaient au temple pour servir. C'est important le service du temple. C'est important de servir Dieu. Mais ces hommes, c'était des maris, c'était des pères. Et Dieu, il a soin de la famille. Il a soin du couple. Et il avait, et David, de la part de Dieu, on peut dire, avait instauré ces classes de sorte que les sacrificateurs allaient par petite période à Jérusalem et le reste du temps, ils étaient dans la famille. Et c'est un petit détail qui nous est rappelé ici pour souligner l'importance de la vie de famille. Tout ce qui se transmet, tout ce qui se construit, combien on a besoin de la vie de famille. On continue, verset 10. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum, et un ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit : Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange : Mais comment connaîtrais-je cela ? Car moi, je suis un vieillard. Et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit : Moi, je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Voici, tu seras muet, tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, il s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple, et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple, et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cacha 5 mois, disant, « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Excusez-moi. Je voudrais juste faire une pause pour parler d'Élisabeth et encore de Zacharie, ou plutôt de la discipline. Élisabeth, on voit cette femme âgée, fort avancée en âge. Élisabeth, elle a ce qu'elle a attendu toute sa vie, varié. Mais c'est une vieille femme. Son ventre va s'arrondir. Elle n'a pas envie de vivre ça en public. C'est ce que je comprends. Alors elle se cache. Elle se cache. Enfin, Élisabeth, tu es l'objet d'une grâce, mais unique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu Sarah et Abraham avant vous deux. Élisabeth, il faut que tu ailles témoigner. Élisabeth, montre-toi. Merci beaucoup. Mais Élisabeth, sa personnalité, ce qu'elle est, s'oppose à ça. Elle a une envie, c'est se cacher. Et quand on va le lire, hein, mais elle va se cacher jusqu'au bout. Je ne l'invente pas, on va le lire. Je me souviens d'avoir dit ici la chose suivante, et je la répète avec un grand bonheur. Dieu nous respecte. L'amour de Dieu, c'est un amour qui respecte ce que nous sommes. Avec nos difficultés, avec nos peines, avec tout ce que nous sommes. Mais sachons que Dieu nous respecte. Et Élisabeth, elle préfère se cacher. Eh bien, elle se cache. Et Dieu, qui est en train de faire quelque chose de miraculeux, ne lui fait aucun reproche. Il la comprend. Vous ne trouvez pas que c'est fort, ça? Il la comprend. Et la discipline de Zacharie, parce que c'est une discipline, ce que Zacharie reçoit. Mais on voit, c'est un mot qui fait peur, n'est-ce pas? Discipline. Mais regardez la miséricorde qu'il y a dans cette discipline. Élisabeth, elle veut se cacher. Zacharie, il peut pas parler. Il peut pas courir dans la ville pour dire « Ah, vous savez, on attend un enfant. » Vous savez, il y a eu Abraham, il y a eu Sarah. Maintenant, on dira, il y a Zacharie et Élisabeth. Non, non, rien de tout ça. Zacharie, il est muet. Il reste avec sa femme. Et c'est incroyable, ça. Cette histoire. Mais rien ne va transpirer. On va le voir à la fin. Ils vont vivre tous les deux. Une communion dont il n'est pas parlé. Mais ils s'accompagnent. Zacharie, grâce au fait qu'il est muet, ne contrarie pas ce que Élisabeth désire. Et grâce à cette discipline, en quelque sorte, il est amené à faire ce que Dieu fait, c'est à respecter ce désir d'Élisabeth. Et je trouve ça splendide, splendide. Et on comprend, on comprend mieux ce que ça veut dire, discipline. Donc là, il faut continuer. Alors, pour continuer, il faut avant dire quelque chose. On va parler maintenant de l'ange qui vient visiter Marie. Et quand l'ange vient visiter Marie, on entre dans la grande histoire. L'histoire que Dieu a en vue depuis l'éternité.
Il y a un jour où le Fils de Dieu va venir. Quel événement! Ça, c'est la grande histoire. Et quand on lit ces passages, nous sommes happés par la grande histoire. Et on oublie la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire qui nous concerne. Marie, par exemple, c'est un être humain, comme Élisabeth, comme Zacharie. Et Marie, on en fait quelque chose où on oublie que cette femme avait des besoins. Et on va voir comment il a été pourvu aux besoins de Marie. On saute dessus à tous les coups. Moi, j'ai mis 70 ans pour m'en rendre compte. Enfin, il y a 70 ans, ça ne veut pas dire. Hein. Je vais commencer à parler. Mais... Donc, on va s'attacher à la petite histoire. Et au sixième verset 26, « Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth. » Nazareth, n'oublie pas, c'est un important. « À une vierge, fiancée à un homme, dont le nom était Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. » Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être ou signifier cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici, tu concevras dans ton ventre, tu appelleras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours. Il n'y aura pas de fin à son royaume. » Et Marie dit à l'ange, « Mais comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra, ou le saint enfant qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. C'est ici le sixième mois. » pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Et Marie, se levant en ces jours-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria à haute voix et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. » J'abrège un peu. Verset 46, et Marie dit, « Mon âme, magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint. » Et j'arrête. Marie, c'est une femme, jeune femme. L'ange lui dit, tu vas être enceinte. Et elle dit, je ne connais pas d'homme. C'est un problème. C'est un problème de société. Marie, vous imaginez ce qui se passe dans sa tête? Alors ça, on saute par-dessus. Elle va être fille-mère. Enfin, c'est ce qu'elle peut penser. Qui va la croire? ses parents, quand elle sera enceinte, elle pourra leur dire, mais vous savez, c'est l'ange qui... Ouais, écoute Marie, dis-moi la vérité. Vous imaginez tout ce qui peut se passer dans sa tête? Je ne suis pas en train d'inventer. Si vous trouvez que j'invente, vous pourrez me le dire. Mais il y a des choses quand même qui parlent. L'ange Gabriel, il annonce à Marie des choses extraordinairement élevées. Ton enfant, le fils du Très-Haut, il sera grand, il règnera toujours. L'ange Gabriel, il annonce des choses extraordinairement élevées. Et puis tout à coup, Dieu lui fait dire quelque chose. C'est comme mettre des cheveux qui tombent sur la soupe. Pour dire simplement, il dit au fait, Élisabeth, tu te connais Élisabeth là? Mais elle est enceinte. Celle qui était appelée stérile, il ne précise pas qu'elle est fort âgée, elle est enceinte. Dieu, il ne lui fait pas dire autre chose. Il ne lui dit pas, va vers Élisabeth. Il la laisse libre. Il respecte. Il respecte. Mais Dieu lui donne une adresse. Moi, ce qui me touche profondément, c'est que Dieu, par l'ange, alors que l'ange annonce des choses extraordinairement élevées, Dieu a le souci de donner une adresse à Marie. Et verset 39, « Et Marie, se levant ces jours-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes de Juda. » Ça presse, le besoin est pressant. Elle part chez Élisabeth. Je crois que la démonstration est suffisante. Dieu sait que cette femme va avoir besoin. Nous, on n'en parle pas. On fait de Marie quelqu'un de tellement au-dessus des hommes, mais non. Elle a des besoins, Marie. Et Dieu les connaît. Et Dieu donne l'adresse, sans ordre, sans invitation, tout simple. Elle y va. L'ange est venu parler à Marie, à Nazareth. Nazareth, aux montagnes de Juda, c'est 100 kilomètres, à pied. C'est 3 jours de marche, au moins. Alors, je crois qu'il ne faut pas inventer sur l'état d'insécurité qu'il y avait sur les routes de Judée. On n'en sait rien, enfin moi j'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une armée d'occupation à certains endroits. Et une armée d'occupation, c'est jamais très bon pour les jeunes femmes. Même une armée de libération, on arrive de Normandie. Mais c'est pas toujours simple. Ça n'a pas toujours été simple. Marie fait ce voyage, 3 jours. 3 jours, en hâte. Ça vous dit pas le besoin qu'elle a. Et Dieu le savait. Et Dieu y a pourvu. Et Dieu lui a donné l'adresse où il faut qu'elle aille. Et quand elle arrive, elle a 3 jours de marche, elle a du temps pour réfléchir, comment je vais le raconter à Élisabeth, est-ce qu'elle va vraiment me croire? Elle arrive, elle a besoin de rien dire. Dieu, les réponses de Dieu, elles vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous dit l'Épître aux Éphésiens. C'est au-delà. Et Élisabeth immédiatement lui parle. Elle sait tout. D'un coup, la révélation lui est faite. Et alors là, on entend Marie qui prononce ces paroles qu'on n'a pas lues, le célèbre Magnificat. Mon âme magnifie, Seigneur. On voit une Marie apaisée, une Marie réconfortée. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Et moi, j'aime l'histoire de cette adresse que Dieu donne à Marie. Alors, tant pis si vous êtes frustré qu'on ne parle pas du les déclarations d'Élisabeth et Marie. On passe au verset 57. Or, le temps où Élisabeth devait accoucher fut accompli, et elle mit au monde un fils, et ses voisins, et ses parents apprirent. Ça veut bien dire que ça avait été bien caché. Apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Élisabeth répondant dit, « Non, mais il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Mais il n'y a personne dans sa parenté qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent signe à son père qu'il déclara comment il voulait qu'il fût appelé. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit disant « Jean est son nom ». Ils en furent tous étonnés. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte, sa langue déliée, et il parlait louant Dieu, et tous leurs voisins furent saisis de crainte. Et on s'entretenait de toutes ces choses par tout le pays des montagnes de Judée, et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui, c'est-à-dire avec cet enfant. Et Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, et ce sont les paroles magnifiques de Zacharie, qu'on ne va pas lire. Je crois que le réflexe d'Élisabeth, ce réflexe de se cacher, que Dieu a soigneusement respecté. Cette discipline à laquelle Zacharie était soumis, d'être muet, tout ça favorisait une chose. Qui est le centre de l'événement? C'est ce bébé qui vient de naître. On le voit, c'est dit. Que sera donc, il se disait, mais que sera donc cet enfant? En quelque sorte, ces choses ont permis à ces deux serviteurs fidèles, Zacharie et Élisabeth, d'accomplir un service où toute la gloire, tout l'honneur revenait. On ne parlait pas de Zacharie et d'Élisabeth, le passage ne met pas ça, mais pas en évidence le fait qu'on parlait de Zacharie et d'Élisabeth en disant, voilà, c'est comme Abraham et Sarah. Non, c'est l'enfant qu'on regarde. En quelque sorte, Luc, le serviteur discret, nous présente deux serviteurs discrets, Zacharie et Élisabeth. Et cette discrétion favorise l'œuvre de Dieu. C'est vraiment magnifique. Puis il faut lire la fin quand même. Et l'enfant croissait, verset 80. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. C'est un verset qui m'a posé des questions. Parce qu'on ne parle plus de Zacharie, on ne parle plus d'Élisabeth. Sur le coup, ça peut paraître injuste. Or, le Dieu que je connais, que j'aime, c'est pas un Dieu comme ça. Certainement que Zacharie et Élisabeth étant fort âgés, ils ont pu prendre soin de Jean un certain nombre d'années, peut-être jusqu'à son âge adulte. Et c'est après qu'il est parti dans les déserts. Mais quelle a été la part de Zacharie et d'Élisabeth? On aimerait savoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont été récompensés? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Eh bien, on n'a pas besoin de l'inventer. Ce qu'ils ont eu, c'est dit, et c'est dit dans ce chapitre. Mais c'est dit au début. C'est dit au début. On retourne Luc 1, verset 13. Et l'ange dit à Zacharie, ne crains pas Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean, et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Mais les parents qui sont ici, vous savez ce que c'est d'avoir des adolescents, moi j'en ai eu 5, enfin avec Francine nous en avons eu 5. Alors on parle des parents, on oublie de parler des enfants. Mais ils ont besoin de lutter aussi pour s'affirmer. C'est vrai, c'est pas toujours simple. Nous, on a eu de belles crises. Et là, ce que l'ange promet, et s'il le promet, ça a été vrai. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Vous voulez ajouter quelque chose à ça? Est-ce qu'on peut compléter? Ce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, ton enfant. Il n'y a rien à ajouter. C'est absolument fabuleux. Alors voyez, Zacharie et Élisabeth, qui disparaissent. Hein. Ils sont complètement mis. On n'en parle plus. Mais tout est dit dans la parole. Tout est dit. Ils ont eu le bonheur d'avoir un enfant, mais pas que. Cet enfant a été pour eux un sujet de joie et d'allégresse. Alors, voilà, nous sommes dans un monde difficile. On a commencé en soulignant. Oui, mais on n'est pas seul. On est avec celui dont on a parlé tout au long de ce chapitre. On est avec celui qui connaît nos besoins. On le chante, il connaît mes besoins. Je ne sais plus quel numéro des hymnes et cantiques, mais il connaît mes besoins. Mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Il connaît mes besoins. Il sait tout. Il y a ce respect. Il y a tout ce que Luc nous apporte. Il y a tout ce que c'est Marie. Cet épisode de la vie de Marie, on sait que, juste en aparté, mais on sait que par l'évangile de Matthieu, que Dieu s'occupe personnellement de Joseph. Joseph et Marie étaient fiancés, ils s'aimaient. Et Dieu s'occupe de Joseph. Et il est soulignant combien il est intéressant de voir ce qui est dit de Joseph. Quand il est blessé, Joseph, apprendre que sa fiancée est enceinte. On comprend, hein? Mais lui aussi, il a du respect d'ailleurs. C'est un homme de Dieu. Et Dieu vient le réconforter. Il connaît les besoins de Joseph. Il vient à son aide. Et il est dit que Joseph prit Marie. Et elle fut sa femme, et qu'il ne la toucha pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Bon, on est moitié homme, moitié femme, hein, ici. Mais cet homme-là, il a respecté sa jeune femme qu'il aimait, dont il avait peut-être envie. Il ne la toucha pas. Vous savez, Joseph, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Alors nous sommes là, devant, c'est pas la grande histoire, je vous l'avais dit, mais nous sommes devant les petites histoires, mais celles de notre humanité, celles de nos besoins, et celles des ressources divines. Et nous l'en bénissons.